Bonjour et bienvenue à Think It, Urban Alternative. Dans une dizaine de minutes, vous découvrirez le travail d'artistes, de chercheurs, d'entrepreneurs et de citoyens qui vous invitent à réfléchir à des moyens plus durables de produire et de consommer notre alimentation en ville. Mais avant ça, partons pour une petite balade sur le site des abattoirs d'Anderlecht, en parcourant l'histoire de notre alimentation. Partez en exploration, flânez, écoutez, et revenez sur vos pas quand vous entendrez les débuts du chapitre 2. Chapitre 1, la naissance de l'agriculture. Se nourrir est un de nos besoins primaires, essentiel à notre survie, comme respirer, boire et dormir. Ce besoin essentiel n'est pas un petit besoin, et nous allons ingérer et digérer près de 73 tonnes d'aliments au cours de notre vie. Elle rythme nos journées, est un reflet de notre culture, notre provenance géographique et notre système de croyances. Elle exprime une partie de notre identité en tant qu'individu. Mais avant toutes ces choses-là, l'alimentation occupe un rôle indispensable pour notre survie et pour notre santé, car elle nous permet d'absorber les nutriments nécessaires au fonctionnement de notre organisme. Glucides, lipides, protides, vitamines et minéraux. Les nutriments sont les substances nutritives contenues dans les aliments qui sont essentielles à la croissance, au développement et au maintien des fonctions de notre corps. Si les nutriments ne sont pas présents en quantité suffisante, certaines fonctions du corps vont ralentir, voire s'arrêter. Mais où trouvons-nous ces nutriments? L'être humain est un organisme hétérotrophe, ce qui veut dire qu'il ne peut synthétiser ses nutriments par lui-même et doit les prélever sur d'autres espèces vivantes pour survivre, en opposition par exemple avec la majorité des plantes qui sont autotrophes. Elles se nourrissent de composés minéraux et de CO2 à l'aide de l'énergie lumineuse reçue du soleil, grâce à la photosynthèse. Cette nécessité d'aller prélever nos nutriments chez d'autres êtres vivants nous a, depuis la nuit des temps, envoyés à la recherche d'aliments à consommer. L'être humain étant omnivore, cette recherche l'a amené à consommer plantes, animaux, champignons, micro-organismes et bien sûr de l'eau. Il y a 12 000 ans, tous les peuples de l'humanité étaient ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. Essentiellement nomades, ils allaient à la recherche des nutriments par des activités de chasse, de pêche et de cueillette. Progressivement, certains peuples se sont mis à sélectionner des plantes et des animaux, à les domestiquer, à les cultiver, en développant l'agriculture. L'homme a ainsi, d'une certaine manière, pris la place de la nature dans sa tâche de s'assurer de la reproduction des plantes et des animaux, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ce changement radical de mode de vie a eu lieu à plusieurs endroits de la planète à des époques différentes, formant un tout que l'on appelle la révolution néolithique. Il s'agit de la première révolution agricole de notre histoire. À partir de la révolution néolithique, les hommes vont progressivement faire le choix de la sédentarité et vont fixer leur lieu de vie. Des villages agricoles vont naître à différents endroits de la planète. Au cours des millénaires qui vont suivre, ces villages vont grossir, leur population va augmenter et se complexifier. En effet, l'augmentation des rendements agricoles, qui sera facilitée par des inventions comme la roue, la charrue et l'irrigation, permettra aux hommes de générer des excédents, permettant l'émergence de sociétés complexes qu'on appellera plus tard les civilisations agricoles, l'ancêtre de nos grandes villes. L'histoire de l'agriculture, de la technologie et de nos villes est ainsi étroitement liée. Et on remarque également que chaque révolution agricole qui surviendra par après se passera à des moments critiques où l'humanité devra faire preuve de créativité pour produire plus, afin de subvenir aux besoins d'une population grandissante. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, l'avènement de la machine à vapeur et de nouvelles technologies agricoles provoque un doublage des rendements. On produit deux fois plus d'aliments pour une même surface. C'est aussi à cette période que les échanges de marchandises entre les États explosent. On considère que cette révolution agricole permettra la révolution industrielle et soutiendra un boom démographique sans précédent en Europe. Plus tard encore, suite à la Seconde Guerre mondiale, l'Europe se relève progressivement et la peur de revivre une nouvelle famine s'est installée dans l'inconscience collective. Les champs sont alors les témoins de profondes innovations agronomiques, que l'on va appeler la révolution verte, la troisième révolution agricole. La motorisation croissante des engins agricoles, les semences hybrides issues des progrès de la génétique et aussi les pesticides, engrais et fertilisants de synthèse mis au point à l'aide de la chimie, transforment l'agriculture. Résultat, les rendements explosent et peuvent nourrir les populations qui bénéficient de cette agriculture plus technologique. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les systèmes alimentaires mis en place par l'Occident au sortir de la Seconde Guerre mondiale ont fait preuve d'une réussite incontestable en matière de quantité et de qualité de la nourriture mise à disposition du plus grand nombre, à un coût qui n'a jamais cessé de diminuer. La part des dépenses engagées par les Occidentaux pour s'alimenter a été divisée par 5. Aujourd'hui, le budget alimentaire des ménages représente une fraction modeste des dépenses courantes, de l'ordre de 14% en Belgique, par exemple. Mais cette opulence et cette sécurité alimentaire n'est pas durable et ne pourra continuer longtemps. L'utilisation des pesticides et d'engrais chimiques se retrouve dans nos nappes phréatiques et fragilise les écosystèmes agricoles, ce qui pousse les agriculteurs à intensifier leurs usages pour maintenir des rendements à la baisse. Plus inquiétant, 71% des terres agricoles européennes sont dédiées à l'alimentation animale, soutenant toute une série de produits d'origine animale dont nous sommes friands et qui contribuent très activement au réchauffement climatique par les émissions de méthane qu'ils produisent. Dans le monde, la consommation mondiale de viande est passée de 67 millions de tonnes en 1957 à 323 millions de tonnes en 2017. Mais le secteur agricole est également dans une crise sociale et économique profonde. Les agriculteurs doivent vendre leurs produits à des prix si bas qu'ils ne peuvent plus vivre décemment de leur production et souffrent de problèmes de santé dus notamment à la proximité des produits chimiques avec lesquels ils cohabitent. Des méthodes alternatives existent pourtant, mais elles ne sont pas soutenues structurellement par la PAC, Politique agricole commune européenne, qui se contente de soutenir les agriculteurs en fonction de l'étendue de leur surface de production, sans prendre en considération les aspects d'éthique et d'éco-responsabilité dont ils font preuve ou non dans leur manière de produire. Les prévisions démographiques annoncent près de 10 milliards d'êtres humains à la surface du globe en 2050. Le système de production alimentaire actuel n'est évidemment pas soutenable. Le dérèglement climatique est bien présent et est l'une des menaces qui pèsent sur nos écosystèmes, notre planète et surtout notre espèce. Aujourd'hui, il est crucial de faire preuve de créativité, de penser à de nouveaux moyens de production, de développer de nouvelles stratégies durables à tous les niveaux, afin d'éviter un effondrement agricole et planétaire, et donc d'assurer notre survie. C'est la fin du chapitre 1. Vous pouvez à présent lancer le deuxième fichier audio et revenir sur vos pas.